Et mon album est cette année dans la sélection du festival pour le Grand Prix de bande dessinée. Ouais. Ça s'appelle Entre les ombres, allez voir.
Il est super, voilà. À côté, il y a Laurent Jeunefort.
Bonjour.
Qui est auteur, directeur, entre autres choses.
Oui, traducteur un peu.
Traducteur un peu. Voilà,
et directeur de collection un tout petit peu.
Vraiment un tout petit peu. À côté, nous avons Jérémy Royer.
Bonjour.
Qui est dessinateur
de BD. Et la plupart du temps, j'ai un scénariste. Voilà. J'ai un album qui s'appelle La Traversée, un récit post-apocalyptique.
Et enfin, Ian McDonald, qui est un auteur.
Hi, I'm Ian McDonald, science fiction writer from Northern Ireland. I have a novel nominated for an award at this very convention, Le Fleuve des Dieux, from Dinnerwell.
Donc, je suis Ian McDonald, auteur de science-fiction d'Irlande du Nord, et j'ai le plaisir d'avoir un roman qui est finaliste d'un des prix ici, qui est Le Fleuve des Dieux chez Fleuve Noir.
Donc, voilà. Pour parler de la thématique de cette conférence, le thème No Future, No Past est à la fois un thème assez sociétal de Roger Gortz. C'était un grand slogan punk des années 80 qui remettait en cause pas mal de choses par rapport à ce qu'était notre société à cette époque-ci. Mais tout en gardant cet aspect sociétal, je pense aussi qu'il y a un grand impact au niveau de comment insérer dans sa pratique d'écriture ou d'écriture et de réflexion par rapport au récit, ces deux conceptions de passé, ces deux, voire trois conceptions du coup, de passé, de présent et de futur. Comment chacun d'entre vous conçoit ces trois thématiques dans son travail, tout d'abord?
Ça, on en a pour 3 heures. Hein. Mais pour dire simplement, par rapport à l'album qui est ici, la manière dont moi j'ai tenté de rendre le rapport à l'histoire, le rapport à la société, il est assez simple, puisque c'est une histoire post-apocalyptique. Donc le passé, on pourrait en faire quasiment table rase, pour le coup. Ce n'est pas complètement le cas, puisque le monde n'a pas été détruit, simplement les gens sont plus là. C'est l'histoire du dernier homme sur Terre. À part ça, le reste du monde, la ville, les infrastructures, tout reste présent. Et pour parler du présent, du coup, eh bien, il n'y a pas de présent. Pour le personnage, la temporalité n'existe quasiment plus. C'est quelque chose qui est une vue de l'esprit. Et autant il n'a pas de problème pour survivre parce que tout est à sa disposition, autant les nourritures physiques qu'intellectuelles, autant les problèmes qu'il peut rencontrer sont justement de l'ordre de ce qui nous fait, nous, humains, c'est-à-dire le rapport aux autres. Il n'y a plus de rapport aux autres, donc il est face uniquement à lui-même, dans un miroir destructeur. Et ce qui fait la beauté de la chose, c'est qu'autant au départ, ses souvenirs le nourrissent et lui permettent de survivre, autant à la fin, il est obligé de laisser ce passé qui devient de plus en plus lourd derrière lui pour se donner la chance d'un futur, quand bien même il est seul. L'idée de cette histoire, c'est que finalement, sans savoir si on a réellement un futur possible, ce qu'il faut faire, c'est partir, dans tous les cas de figure. Voilà. C'est une histoire qui est essentiellement basée sur l'individu, hein, et pas sur une collectivité, vous aurez compris. Voilà.
Alors, le rapport du passé, du présent et du futur dans ce que je fais. Moi, j'ai surtout écrit du space opéra, ce qui est un moyen assez facile de se débarrasser du passé. puisque on se coupe de notre contemporanéité, on va dire, et pour se projeter dans un futur très très lointain. Mais en fait, on coupe les ponts, quoi. C'est une façon de couper les ponts avec le présent et de reconstruire un monde. Ça peut paraître ambitieux, mais il y a une part de lâcheté là-dedans, qui est qu'on a pu à être crédible. À présenter un futur crédible par rapport à notre présent. Donc c'est il y a un côté facile, je dirais, dans le space op que je revendique totalement, parce que ça permet en même temps de devenir une expérience de pensée plus symbolique que la spéculative fiction sur laquelle on va construire un futur qu'on va essayer de rendre crédible. Mais alors, je commence un peu à changer là-dessus. C'est-à-dire que j'entame une période d'écriture de spéculative fiction, justement, où j'imagine un monde qui va commencer dans 10 ans, dans 15 ans. Quelque chose sur lequel, enfin, c'est une chose qui m'a toujours fait peur. Pour moi, c'est vraiment une gageure d'arriver à décrire un futur qui soit crédible, alors que tout le monde sait bien qu'on n'a aucune idée du monde tel qu'il sera dans 5 ans. Ne serait-ce que 5 ans au niveau politique et technologique même. Donc c'est d'autant plus dur. Voilà.
Jérémy.
Alors moi, ça se rapproche assez de Arnaud, puisque aussi c'est un récit post-apocalyptique. Et comme il y a eu une catastrophe, forcément on pense au passé qu'il y a eu, qu'il y a pu avoir. Et moi, il y a plusieurs personnes, c'est pas une seule personne dans un monde dévasté. Et ces personnes sont obligées de justement se reconstruire et de se préparer un passé, un futur, pardon, et vraiment d'aller vers de l'avant pour, entre guillemets, reconstruire une humanité et peut-être prendre un peu des choses qu'il y a eu dans le passé, même si cette catastrophe a fait oublier pas mal de choses. Et j'espère, en tout cas avec le récit, que le futur que j'ai mis dedans est plutôt joyeux, même si le thème de la conférence c'est nos futurs, nos pastes. J'essaye de montrer qu'on peut quand même, même s'il y a un passé assez douloureux avec une grosse catastrophe, on peut peut-être avoir un futur assez joyeux, en tout cas j'espère, dans un monde dévasté, avoir un peu d'espoir ou d'espérance.
Yeah, I typically do the difficult thing in that the kind of science fiction I write, it's usually set about 30, 40, 50 years into the future, so it's all the difficult stuff.
En ce qui me concerne, typiquement, par rapport à ce qui a été dit, je fais le truc qui est difficile. C'est-à-dire que j'établis ma science-fiction se situe typiquement 30, 40, 50 ans dans l'avenir.
And just to make it even more difficult for myself, I tend to set it in non-Western societies. So Le Fleuve des Dieux is set in India, Brazil is set in Brazil, and next year... the next book I have coming out, The Dervish House, is set in Turkey in 2027. So it's not just near future, it's somebody else's near future as well.
Et en plus, pour me compliquer davantage la vie, je ne prends pas forcément des sociétés occidentales, puisque le fleuve des dieux est relatif à l'Inde, que Brésil se situe au Brésil, et donc The Dervish House, qui sort l'année prochaine, se passe en Turquie en 2029.
I think there's one thing I've learned about trying to predict near future. Well, for a start, science fiction doesn't predict the future. It shows you a possible future or a fictional future or a way we could go. But the one thing I have learned, I think, is that whatever we think the future is going to be like, the reality is almost always the exact opposite of what that is, the exact opposite of it. 5 years ago, the economy is fantastic. The world is a wonderful place. And now we have the exact opposite of what everyone thought the future would be.
Et une chose que j'ai apprise, alors tout d'abord, quand même, la science-fiction n'a pas pour but d'essayer de prédire l'avenir. Elle cherche juste à en dépeindre une version fictive qui est plausible et d'essayer un peu d'imaginer une espèce de trajectoire. Mais une chose que j'ai apprise au cours de ce travail, de tous ces travaux d'écriture, c'est que quand on essaie de prédire ou de penser ce que l'avenir sera, en général, la réalité nous dément totalement. Et la réalité, était l'opposé exact de ce qu'on aurait pu imaginer. L'exemple, d'ailleurs, il y a 5 ans, tout le monde disait que l'économie était fantastique, que le monde était merveilleux et que tout allait super bien. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, on est dans une crise sans précédent.
The worst thing about writing near future science fiction is if you actually predict something and it starts to come true, you feel very pleased with yourself. So I have in the Dervish House out next year, I have Iran developed nuclear weapons and hidden them under a mountain, and that's actually happening right now. And I'm going, yeah, isn't that? No, it's not great at all. Actually, I predicted that. No, that's terrible. Actually, so.
Mais une des choses qui est pire, en fait, quand on écrit de la science-fiction à court terme, donc de l'anticipation à court terme, c'est que quand ce que vous avez prédit finalement se réalise, vous êtes extrêmement content de vous. Par exemple, dans The Dervish House, j'avais prédit que l'Iran développerait des armes nucléaires et qu'elle les cacherait. Et donc, c'est effectivement ce qui est en train de se passer. Et je suis là en train de me dire, ouais, super, ça, je l'ai prévu. Et en fait, je me dis, non, attendez, non, ça, c'est une catastrophe, ou pas du tout, c'est atroce.
De ce fait, de chacun qui essaye de se couper d'une certaine réalité, de s'évader du réel pour écrire des œuvres qui sont plus projetées dans le futur ou dans des mondes post-apocalyptiques vraiment fermés, est-ce que vous pensez que par No Future, on fait que un déni d'optimisme et on se focalise plus sur l'être humain, mais du coup on est un tout petit peu plus pessimiste par rapport à l'humanité.
Je crois qu'on traîne un peu dans un pessimisme ambiant de bon aloi, moi qui me plaît pas. Je pense que l'idée du no future, en tout cas lorsque l'on écrit de la fiction, ce n'est pas tant de nier le fait qu'il puisse y avoir un futur que le fait de dire dans cette histoire on se retrouve dans un contexte très difficile où les personnages renient le monde dans lequel ils sont. Dans ce cas-là, on n'est plus vraiment dans la thématique de savoir si vraiment notre monde va. On n'est plus dans la prospective, on n'est plus dans savoir si le monde dans lequel on est va vers je ne sais quelle catastrophe. On est plus réellement dans un problème d'écriture qui est de projeter des personnages dans un contexte qui va permettre de l'aventure, qui va permettre. Tout un tas de développements, finalement. Le néo-futur, contrairement à ce qu'on pourrait croire à ce moment-là, c'est bien plus une porte ouverte qu'une porte fermée. Hein. Et en tout cas, pour le bouquin que j'ai fait qui est ici, c'est vraiment ça. Hein. Voilà.
Moi, c'est pas tellement ma partie, puisque je fais plutôt des... J'avoue que j'ai une préférence pour la spéculative fiction qui ne fait pas de grosses ruptures avec notre présent, parce que c'est peut-être plus dur justement à gérer que de faire un. Il y a eu une rupture, une grosse rupture, et puis on repart plus ou moins sur des bases plus saines, et donc c'est plus difficile de se trimballer tout le passé. Mais sur les récits de fin du monde, je pense qu'il y a deux attitudes. Il y a l'attitude libérale qui est de dire, comme dans Mad Max par exemple, qui est de dire les hommes sont des bêtes sauvages qui sont prêts à tout pour conserver les bribes de pouvoir ou de ressources qu'il y a. Et donc là, il y a un no future à ce niveau-là, parce que il n'y a rien à espérer de l'homme lui-même. Il y a aussi une autre attitude apocalyptique qui est de dire on est dans une société pourrie, mais le fond de l'homme est bon. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'auteurs chrétiens qui ont traité de ça, comme C.S. Lewis, où il suffit finalement de revenir à des valeurs, par exemple, pour que tout s'arrange. Voilà. Et donc, ou alors, au contraire, de réentamer un nouveau cycle de destruction, d'accroissement, de destruction, etc. Et donc, c'est des récits qui deviennent cycliques, du coup, enfin, de fin du monde cyclique. Enfin, en tout cas, moi, c'est un peu les types de SF que j'ai lus quand j'étais gamin, quoi.
C'est tout à fait ce que j'allais dire, en fait. C'est juste une histoire de cycle. On détruit, on reconstruit, et on reconstruit pour redétruire, et ainsi de suite. Et je pense qu'après, c'est juste aux personnes, à l'humanité, ou à autre chose. Ça peut être la nature qui peut reprendre ses droits, ou n'importe quel sens. C'est juste une façon de repartir et de... On peut penser au passé et puis justement, avec ce passé, aller vers le futur et ainsi reconstruire et redétruire, etc. etc. quoi.
Yeah, that's actually very much the Indian worldview, that the Trimurti, the three basic gods of Hinduism, is Brahma the creator, Vishnu the preserver and Shiva the destroyer, and each cycle is created, sustained and then destroyed at the end by Shiva and then reborn again. So it's nice to know we're all embracing Hinduism here.
En fait, c'est très proche de la vision indienne de la spiritualité indienne, puisqu'on a la Trinité, donc Brahma le créateur, Vishnu qui soutient et Shiva qui détruit. Donc on a un petit peu comme ça une succession d'ères et de cycles. Est-ce que nous sommes là finalement tous en train d'embrasser l'hindouisme?
I'm kind of optimistic because the futures I write, they're not fabulous, shiny, brilliant futures, but they're also not terrible places where people are eating each other's limbs because there's nothing else to eat. Because I think we make the best possible world we can at every point. We make mistakes as we go along, but we try to correct them and so I try to kind of imagine futures that are ones that people could live in, that people want to live in, and that people kind of feel that they can pass on to their descendants and their families and kind of make the world a good place for families to grow up in. So my futures, they aren't, you know, total destruction. They're neither dystopia or utopia. They're somewhere in the middle, kind of ustopia, the world we have to live in.
Moi, je suis un petit peu optimiste sur l'avenir, en ce sens que je ne pense pas qu'on aura un futur absolument fantastique et merveilleux, mais qu'on n'aura pas non plus un futur absolument atroce où les gens se mangeront mutuellement. Je pense qu'à chaque instant, nous essayons de faire de notre mieux, d'essayer de construire le meilleur avenir que nous pouvons. Effectivement, nous faisons des erreurs et nous essayons de faire de notre mieux pour les corriger, de façon à pouvoir peut-être faire un futur qui soit au moins vivable, où les gens pourront vivre, ou au moins, et même peut-être voudront vivre, et qu'ils pourront transmettre à leurs descendants un monde où au moins des familles pourront grandir et au moins s'épanouir un peu. Les futurs que je dépeins ne sont pas forcément destructifs, ils sont pas dystopiques, ils sont pas non plus utopiques, c'est un petit peu une espèce de moyen terme, et c'est un peu ce genre de choses que j'essaie de faire.
Alors dans celle que je développe, j'ai un point de vue un peu différent, parce que c'est ce que je ressens du monde actuel finalement, c'est que on a les deux en fait qui coexistent. C'est-à-dire on est vraiment dans un monde postmoderne, je pense, où on a à la fois des classes sociales entières qui sont interconnectées, qui vivent dans le cloud, qui vont bientôt être entourés d'objets intelligents avec une technosphère très très élaborée, et puis 2 milliards de personnes qui vont pas avoir accès à l'eau courante, mais tout ça coexiste finalement. Et c'est une vision, moi, du monde que j'ai depuis longtemps, parce que j'étais allé aux États-Unis dans les années 80 et à Los Angeles, où j'étais passé tout en bas de Hollywood Boulevard, quand on continue dans les collines, où on arrivait dans les quartiers très pauvres, et on passait en très très peu de temps, en 5 minutes, je dirais, d'une grande opulence à, pas des bidonvilles, mais en tout cas des quartiers très pauvres, quoi.
J'aimerais rebondir sur cette idée où effectivement on va se retrouver et on se retrouverait finalement déjà dans cette hétérogénéité au sein même de nos propres villes. Moi, c'est quelque chose, effectivement, je vis aussi tous les jours. J'habite au Canada et dans une grande ville, puisqu'à Toronto, il y a 5 millions d'habitants. Et ma foi, c'est quelque chose qu'on rencontre, mais pas à 5 minutes. C'est à 2 pas. Il suffit de changer de rue. Et le maillage d'une ville nord-américaine est très différent de celui d'une ville européenne. Ce sont une espèce de superposition de différentes villes les unes sur les autres, on pourrait dire. Et autant on peut se retrouver dans une rue commerçante, très, très active, avec un way of life où on sent qu'il y a de l'argent, etc. Et puis on tourne, on passe dans une rue transversale, et là c'est la pauvreté complète, avec des maisons qui sont des taudis, qui sont des squats, et avec des gens dehors, au coin de la rue, qui font la manche. Et puis on repasse encore un carrefour, et puis c'est le downtown, c'est les grandes tours de la finance, et tout ça, en fait, c'est la même ville. Et tout ça, ce sont les mêmes citoyens. Et finalement, effectivement, à ce moment-là, on pourrait se dire... ces histoires de cycles, est-ce que c'est pas justement juste une vue d'un auteur de dire il y a eu une apocalypse et puis on reconstruit? Moi, j'aurais plutôt tendance à me dire l'apocalypse, elle est personnelle. Et c'est en ce sens qu'elle est la pire, parce qu'elle touche un individu et pas une masse immense comme on nous fait... miroiter dans certaines productions hollywoodiennes une masse immense de gens qui vont être balayés par un cataclysme. Et le cataclysme, il est atomique sur chaque personne, et il y en a qui se relèvent, il y en a qui ne se relèvent jamais. Voilà. En tout cas, ouais, je crois que là, on est bien plus dans la réalité que... voilà. C'est gay, hein?
Yeah. No, I can go better than that. In Brazil, when I was researching the book there, we went to a favela called Vila Canoas. And there's a street with big houses, big shiny houses with walls and security guards and Mercedes cars. And nice street, goes up the side of the hill. Lovely big houses, very, very rich people live there.
Oui, pour rebondir là-dessus, parlant par exemple, quand je faisais des recherches pour Brésil, je faisais dans une favela qui s'appelle Vila Coloas, et en fait, il y a cette, par exemple une rue, et avec des murs très presque blancs, très brillants, avec des grandes maisons, il y a des Mercedes, il y a des gardes de sécurité, et en fait, vous prenez une rue et vous montez la colline.
Yep. So, here's the street going up into Vila Canoas, and here's number 27 on the street. It's this big house. Number 29 is a favela right beside the wall of the house, right beside it. So it goes from millionaire's house to favela house right beside it.
Et c'est assez frappant parce que donc vous montez cette rue qui remonte la colline. En fait, le numéro 28, c'est une immense maison comme ça, avec des grands murs, des gardes de sécurité. Et le 29, c'est de la favela. C'est-à-dire que c'est vraiment, ça jouxte totalement cette mission millionnaire, et juste à côté, c'est le bidonville.
And the thing is that the two need each other, and that the people from the favela work in the houses. They're the security guards outside, and the people from the houses, they go up and they buy drugs, or they go to the restaurants because apparently the food is better in the favela than it is down in the rich end of town. So all the police and all the taxi drivers and all the people from the rich end go up into the favela, and they exist together, and I find that very interesting.
et ce qui est vraiment extrêmement intéressant, c'est qu'en fait, les deux mondes ont besoin l'un de l'autre. C'est-à-dire que les gens qui habitent justement dans la favela, dans le bidonville, ce sont les gens qui vont travailler à la grande maison, puisque ce sont les gardes de la sécurité. Et inversement, les gens qui vivent dans la maison ont besoin de la favela, parce que c'est là qu'ils vont acheter de la drogue. C'est là aussi qu'ils vont aller au restaurant, parce qu'apparemment, la nourriture est meilleure. Et donc, les chauffeurs de taxi connaissent et emmène les gens là-bas dans la favela. Donc en fait, ces deux mondes ont besoin l'un de l'autre et coexistent, et je trouve ça quand même assez intéressant.
Yeah, and that kind of shaped my kind of the way I look at the world, in that I think that reality is fractal. It's in that in the world there are rich countries, there are poor countries, there are countries in between. Inside each country there are rich areas of the country, there are poor areas, there are areas in between. Inside each city, there are rich areas, there are poor areas, there are areas in between, and it scales down all the way that we kind of live in a fractal society where all these differences and all these contrasts work all the way from the global to the personal.
Et en fait, ça a un peu façonné la façon dont je regarde le monde, c'est qu'en fait, je pense que la réalité finalement est fractale. C'est-à-dire que vous regardez la planète entière, il y a des pays riches, des pays pauvres, des pays qui sont entre les deux. Vous allez à l'intérieur d'un pays, il y a des régions qui sont riches, des régions qui sont pauvres, des régions qui sont entre les deux. Au sein d'une ville, il y a des quartiers riches, des quartiers pauvres, entre les deux, etc. Et tout ça descend à une échelle de plus en plus resserrée. Et je pense vraiment que la réalité a un peu une nature fractale comme ça, où les différences vont vraiment du global jusqu'à l'échelon particulier.
Parlons de Brasil, justement. Ce livre contient une structure narrative qui est très particulière, qui mêle à la fois passé, présent et futur. Comment vous avez réussi à construire et à assembler tous les puzzles, toutes les pièces du puzzle dans ce roman? Et est-ce que ça n'a pas été si compliqué que ça?
Oh hell yeah!
Oula oui!
Yeah, I wanted to write about Brazil because it's a fascinating, beautiful, and scary place, and also one of the world's kind of big developing economies. And I had an idea. I wanted to write about the near future and about the present as well. And when I started researching into the history, Brazil has the most appalling history. There's genocides, slavery, mass murder, plagues, destruction, you name it. It's all happened in Brazil.
Ça faisait très longtemps que j'avais envie d'écrire sur le Brésil, parce que je trouve que c'est un des endroits du monde les plus fascinants, les plus beaux et puis aussi les plus effrayants. En plus, c'est une des économies du monde qui connaît un des développements les plus marqués. Et je savais que j'avais envie d'écrire sur une anticipation à court terme. Donc quand j'ai commencé à me documenter sur l'histoire du Brésil, en fait, je me suis rendu compte que ce pays a une des histoires les plus terribles de la planète. C'est une histoire qui est jalonnée par des génocides, de l'esclavage, des massacres, des fléaux, des maladies, des désastres. Toutes les calamités que vous pouvez imaginer, elles y sont.
Yeah, and I was reading about the Jesuits on the Amazon, and in some ways the Jesuits were not the bad guys. Everyone thinks they were. In a sense, they tried to ensure that some element of tribal culture survived in some way or other, you know, until the Jesuits were expelled. But I read a bit in the book about they built a floating wooden basilica on the Amazon, and I read this, and I have to write about that. That is just fantastic. And that kind of spun off the entire 18th century bit of the book, and then it was just weaving the three together. But certainly, I mean, I love 18th century stuff, but a floating wooden basilica, yeah.
J'ai aussi, je me suis aussi beaucoup renseigné sur les jésuites en Amazonie. Alors, on pense beaucoup que c'était les méchants de l'histoire, alors que non, pas vraiment. Ils se sont efforcés de faire en sorte qu'il y ait le maximum d'éléments de culture tribale qui aient pu survivre d'une manière ou d'une autre, en tout cas du moins jusqu'à ce que les jésuites aient été expulsés. Et je lisais donc sur cette histoire et je me suis rendu compte, j'ai découvert que les jésuites avaient construit une espèce de basilique en bois flottante géante, et je me suis dit c'est absolument fantastique. C'est quelque chose qui a couvert une bonne partie du XVIIIe siècle, et donc c'est comme ça un peu que j'avais envie de mélanger donc ces différents éléments du présent, passé et futur, parce que bon, j'adore tout ce qui a trait au XVIIIe siècle, mais alors une basilique flottante, je me suis juste dit c'est juste génial, il faut que j'écrive là-dessus.
Yeah, and I found that I needed to get that historical bit into the book to understand how Brazil had got from there to the country it is now, with its astonishing kind of racial and cultural mix that it has. And I couldn't completely understand the present unless I'd actually researched the history.
En fait, je me suis rendu compte que pour bien faire sentir ce courant historique à travers le livre, il fallait que je fasse le trajet, c'est-à-dire de vraiment partir de la base historique pour aller jusqu'au présent et au-delà. Ne serait-ce que parce que le Brésil a cette espèce de mélange de culture et d'ethnie absolument fantastique et fascinant. Et je me suis dit que je ne pouvais pas convenablement comprendre le présent si je ne me fondais pas sur leur histoire.
Merci pour ces renseignements. Concernant justement le slogan lui-même, « No future, no past », est-ce que ce n'est pas aussi une manière de s'affranchir de toutes les pressions sociales et historiques de la société et de se revendiquer en individu propre et non pas en simple partie de la société et de ce qu'on dirait considérer vraiment comme quelqu'un avec un libre arbitre qui remet en cause tout le monde qui l'entoure. Est-ce que c'est pas gros aussi de la science-fiction, justement, grâce à cette grande partie métaphysique, d'utiliser justement ces leviers pour développer un certain univers?
On pourrait parler du punk, ouais. C'est clair qu'à partir du moment où on dit pas de futur, pas de passé, on s'inscrit en dehors du monde dans lequel on se trouve, quoi. On renie ça. Ouais, alors on en parlait tout à l'heure, effectivement, que ce soit pour proposer un univers de science-fiction en dehors de notre monde, ou que ce soit pour proposer un univers où l'apocalypse est passé et puis il faut faire autre chose après. Oui, c'est un ressort d'écriture, c'est aussi une facilité, comme tu disais. Pour revenir sur l'individu, moi, la manière dont j'ai abordé ça, c'était bien plus pour parler de l'homme en général, pour parler de la solitude. Mon livre, c'est un livre sur la solitude, c'est pas un livre de science-fiction. Même s'il y a une apocalypse qui a pu passer là-dessus. Finalement, ça, c'est accessoire. Ce qui m'intéressait, c'est réellement de savoir comment est-ce que, quand on est seul, comment est-ce qu'on arrive à ne pas se tirer une balle dans la tête. Voilà. C'était juste ça, l'histoire que j'ai voulu faire. Et pour que ce soit dramatiquement le plus fort possible, eh bien, j'ai proposé la solitude la plus extrême, c'est-à-dire plus personne, nulle part, un seul. Et bizarrement, il décide quand même de survivre. Mais quel est le moteur de ça? Réellement, c'est ça qui m'a semblé intéressant. Est-ce que c'est réellement envisageable? Est-ce que dans une fiction, on peut faire passer le sentiment que ce gars, oui, a trouvé de quoi alimenter ses jours et ses nuits? Mine de rien, il faut aussi dormir.
à quel moment, finalement, là, du coup, le passé lui sert pour un certain levier et lui sert à vivre et lui sert à se décider à un avenir. Voilà.
T'aurais pas lu Andrevon, toi, quand t'étais jeune?
Non, pas quand j'étais jeune.
Oui, par rapport à ta question, on est romancier. Donc forcément, on traite de personnages. Donc la question de l'individu, elle se pose pas, puisque ce sont c'est la voix de nos messages, quoi. Maintenant, la SF, c'est pas de l'utopie. C'est-à-dire qu'on s'inscrit dans un, on veut faire croire quand même à une réalité. Au moins le temps du récit, quoi. Et la SF, elle a une tendance globalisante. C'est-à-dire que dans la SF, on traite de la société. Même si on le veut pas, on en traite forcément. Et la SF, c'est peut-être la forme de littérature la plus écologique, au sens où elle inscrit l'homme dans la technosphère, dans la biosphère, comme peut-être aucune autre littérature. Donc oui, effectivement, on est forcément, on traite forcément de l'individu à cause de ça, et on ne peut pas s'abstraire de la société aussi à cause de la du point de vue SF, j'allais dire. Donc voilà.
Nos futurs, nos pastes, moi j'y crois pas. Voilà, tout simplement. Comme le disait Yann.
Tu as résumé ce que je voulais dire.
Voilà. C'est juste que, comme disait Yann, il y avait dans les favelas, il y avait les riches et les pauvres. Ils ont besoin l'un de l'autre. Et il parlait après, bien sûr, des classes moyennes, etc. Et je pense que, en fait, on est juste en train de vivre notre futur. Et de réaliser justement à ce moment présent ce qui va se passer dans le futur et cette évolution, même si ces écarts peuvent se creuser, on est en train de vivre notre futur, et notre futur, on peut l'imaginer de n'importe quelle sorte, de n'importe quelle façon, ce sera toujours avec ce qu'on construit maintenant que on peut imaginer un futur joyeux, pessimiste ou peu importe. En tout cas, voilà. Nos futurs, nos passes, moi, j'y crois pas. C'est juste, c'est tous ensemble. Enfin, sans reprendre une phrase particulière. Donc, voilà. C'est. Voilà.
Yeah, we're all together in the same highway to hell. Yeah. I agree. I mean, I think we've almost never, ever, in what we write, get to do a complete tabula rasa, you know, just wipe everything clean. I think even as writers, this kind of stories we tell, and the way, and the kind of stories we tell, the way we structure our stories all come from somewhere. Our characters all have values from somewhere else, something historical, something cultural. You know, these things kind of all impinge on what our characters are like and what they do, and so I think at some level we're always bringing in ideas from the past and from society.
Oui, nous sommes tous ensemble, pour citer ACDC, en autoroute vers l'enfer, I Wait Well. Non, je pense qu'on ne fait jamais une table rase totale du passé. C'est impossible, on ne peut pas tout effacer et repartir de zéro. Ne serait-ce que quand on écrit, quand on a une histoire à raconter, la façon dont on la structure, cette structure, elle vient forcément de quelque part. Nos personnages ont des valeurs qui peuvent dériver de l'histoire, qui peuvent dériver de la culture, et ce dont on baigne, là où l'on baigne, cela va forcément se refléter d'une manière ou d'une autre sur ce que nos personnages vont faire et ce qu'ils sont. Et je pense que à un niveau ou à un autre, on amène toujours toutes ces idées, et ces idées, elles nous viennent du passé, elles nous viennent de la société dans laquelle on vit.
Yeah, and the idea of a future. Don't translate that. The idea of a future is implicit in narrative itself, because all narratives start at a point, move through a series of events, and come to an end. And in the sense, what keeps you reading a narrative is you want to find out what happens next, and the future is what happens next. So in a sense, all narrative comes from somewhere in the past and pushes into a future, even just inside the story. So I don't think we can actually get rid of them completely.
Oui, de toute façon, je pense qu'il y a un présupposé qui est implicite et qui est fondamental à toute idée de narration et de fiction. C'est le futur est implicite à toute idée de narration, ne serait-ce que parce qu'une histoire vient d'un passé, il y a des événements qui se déroulent et ça va arriver et le récit, à un moment, va toucher à sa fin. Donc on lit une histoire, pourquoi ? Parce qu'on veut savoir ce qui va se passer ensuite. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Tout simplement, c'est l'avenir, c'est le futur. Donc on ne peut pas s'en affranchir, c'est impossible. Une narration, une histoire, ne serait-ce que dans au moins le cadre de l'histoire, vient d'un avenir et va ensuite vers son futur. Donc c'est impossible, évidemment, de se débarrasser de cette dimension.
Mais j'ai jamais lu ou vu un film de SF apocalyptique sans penser à l'hypothèse, en fait. C'est et si y avait la fin de l'humanité, et donc on est dans une expérience de pensée presque pure. On élimine la société, on essaie de se recentrer sur l'humain et donc sur l'individu. Donc j'ai jamais accordé beaucoup de réalisme, moi en tant que lecteur, à des récits apocalyptiques où il reste plus qu'un seul homme sur Terre. On sait bien que c'est pas possible. Donc on est dans l'hypothèse. Là c'est la puissance du et si. Non, je veux dire, on est dans le symbolisme beaucoup plus, voilà, que la spéculative fiction qui essaie de faire accroire un avenir. Pas possible, mais plausible en tout cas.
Non, je suis tout à fait d'accord. J'ai rien à dire de plus par rapport à cette chose-là. Voilà. De toute façon, d'une certaine façon, oui. Voilà, à partir du moment où on s'inscrit en tant qu'auteur, c'est difficile d'être no future, no past. Quoi. À partir du moment où on écrit. Le fait de la démarche vous projette dans une forme qui vous amène à poser question, à faire la prospective d'une manière ou d'une autre. Hein. Et que ce soit vers une forme plus symbolique ou vers la projection possible de notre présent, ma foi, on va faire un développement et puis une fin. Le principe de l'histoire sans fin, c'est finalement, du point de vue formel de cette histoire, du point de vue symbolique, c'est parler de ça, quoi. C'est le lecteur est actif dans cette histoire, mais mine de rien, l'idée, c'est que on ouvre un livre, il y a une première page et il y a une dernière page. Hein, voilà.
Il y avait un bouquin de Serge Brusselot qui s'appelait « Enfer vertical en approche rapide ». Je ne sais pas qui avait lu ça dans l'Assemblée, non ? Il y en a qui ont lu ce bouquin de Brusselot. Où en fait, grosso modo, c'est une expérience qui est tentée sur des prisonniers. On les enferme dans une salle avec un distributeur de nourriture au centre. Et c'est une espèce de tour qui s'enfonce dans un truc de boue. Et ils sont laissés, donc les murs sont nus, donc c'est une grande cellule, et ça s'enfonce lentement. Et au bout d'un moment, ça, en général c'est 24 heures, il y a une trappe en haut qui s'ouvre dans le plafond, et les gens grimpent à l'étage supérieur, tandis que la boue remplit d'un seul coup le niveau inférieur. Donc voilà, c'est les trucs de base. Donc on est vraiment dans une pure expérience de pensée apocalyptique, je dirais. C'est-à-dire, il n'y a plus que des hommes. Dans une salle nue, enfin et puis un distributeur de nourriture, et puis l'expérience se complique, c'est-à-dire que le distributeur commence à à ne donner de la nourriture qu'aux plus forts, qu'à ceux qui vont appuyer leur pouce sur le truc et le truc devient brûlant comme un allume-cigare. Donc c'est évidemment les plus résistants qui vont continuer à manger, etc., etc. L'escalier devient branlant, donc au bout d'un moment, donc il faut passer un à un lentement, sinon tout se pète la gueule, etc. Et Brusolo avait clairement voulu resserrer sur uniquement des humains. Et le bouquin a été écrit dans les années 90 et ça a précédé la vague de télé-réalité où on enfermait des gens dans un espace réduit puis on les regardait bouger sans, un peu comme des fourmis. Voilà. Et évidemment, plein de lecteurs ont raccordé l'histoire de Brusolo et en ont fait une version cauchemardesque de la télé-réalité. Mais en fait, c'était pas le destin du livre. Et donc, pour moi, la SF, elle est là aussi. C'est-à-dire, elle dit des vérités, mais pas forcément là où on l'attend, ni même là où l'auteur voulait la mettre, en fait, cette vérité.
Vu le temps qui nous reste, est-ce que vous avez des questions ?
Ah. Merci, on va.
Bien. Attends, il y a un micro qui arrive.
C'est juste vous demandez, est-ce que vous pouvez rappeler le titre du livre de Serge Brusolo, s'il vous plaît ?
Enfer vertical en approche rapide, mais je crois qu'il est plus disponible.
D'accord.
Pour le moment, il faut aller le chercher chez les bouquinistes, je pense.
D'accord. Merci.
Pour un petit aparté par rapport à ça, je pense que les gens qui ont réalisé le Cube, ensuite le film Cube, ont certainement lu Brusolo. Ça me semble relativement évident.
Oui, bonjour. Vous parliez du Brésil tout à l'heure. Est-ce que c'est pas un contre-exemple de société qui risque de, pourquoi pas, d'arriver aussi en Occident un jour, à savoir donc il y a une ville très très, des parties très très riches et etc., des pauvres extrêmement pauvres et finalement des guérillas urbaines, un peu comme dans le film Les Fils de l'Homme ou ce type de monde.
Yeah, it's yes is the answer to that, and it's happening quite quickly. In that, in most Western societies, social divisions are widening at an astonishing rate. The rich are getting richer, and everyone else is kind of settling to the bottom. And when that happens, that is a recipe for revolution, ultimately. And we've seen that happening this year in the Arab Spring, you know, and all those people with the V for Vendetta masks out there, you know, all the Occupy Wall Street people, they're taking lessons from Tahrir Square and from Tunisia and applying that to a very unequal West.
Oui, tout à fait. Et ça se passe de plus en plus vite, d'ailleurs, dans les sociétés nord-américaines et européennes, où cette division sociale est en train de se creuser de plus en plus vite et être de plus en plus importante. Et je pense que, d'ailleurs, tout ça, c'est le cocktail idéal pour former une révolution. On l'a vu avec le printemps arabe, on voit avec les gens dans la rue, avec les masques de V pour Vendetta, avec le mouvement Occupy Wall Street, etc. Et je pense que tous ces gens sont en train de prendre des leçons de ce qui s'est passé en Tunisie et de se rendre compte que de ce qui se passe avec les inégalités et d'exprimer leur désapprobation.
Je trouve que les bouquins de Ian MacDonald sont vraiment symptomatiques de la, peut-être de la SF telle que de la SF au futur, c'est-à-dire le avant, on avait des héros qui s'opposaient à des blocs idéologiques, et maintenant on a une SF plus ethniciste, on va dire, plus ancrée dans les réalités sociales, mais ethniques aussi. Et c'est pas un hasard si beaucoup de SF modernes On montre des, bah, comme de, le Fils de l'homme justement, on montre des armées qui s'en prennent à leur propre population, des groupes qui s'arment et qui sont capables de s'opposer maintenant à aux autorités légalement constituées, on va dire, sans que c'est les germes du chaos en même temps ce type de choses, mais ça fait partie de, c'est en train de commencer à faire partie du quotidien maintenant en fait. Et cette espèce de la violence aussi s'est atomisée, on va dire, par rapport à la SF ancienne, et elle est plus ancrée au quotidien qu'avant, on va dire, et plus diluée aussi, plus diluée dans le quotidien.
Yeah. There's a book by Steven Pinker out at the moment. I can't remember the title of it, but his theory, it's a big fat book, science book, but his theory is that human beings are actually getting less violent as time has gone by over the centuries. Because human society is becoming more complex, that actually humans are getting less violent. But at the same time, I think we're seeing quite a lot of basically that. One of the basic human problems that a lot of tribal societies get right, which is they allow mechanisms for young males to kill each other. I mean, in a sense, an awful lot of society's problems are caused by young single males. Well, in a tribal society, you know, you have some manhood thing to prove your manhood. You know, in Brazil. Sorry, I'm gone too long.
Il y a un livre dont je n'arrive pas à me rappeler le titre à l'instant, mais qui est donc de Steven Pinker, qui est un gros livre scientifique assez épais, qui forme la théorie qu'en fait l'être humain est devenu de moins en moins violent au fur et à mesure des siècles, ne serait-ce que parce que les sociétés sont complexes. Mais en même temps, nous affrontons des problèmes fondamentaux de l'espèce humaine qui sont relatifs justement à la violence. Les sociétés tribales anciennes, en fait, finalement avait ritualisé la violence en un sens, puisqu'en fait, par exemple pendant les rites de passage, il y avait une possibilité de se débarrasser d'un excès de violence où c'était ritualisé, où les jeunes mâles avaient le droit de se tuer mutuellement, donc ça, et de prouver leur virilité comme ça. Donc en un sens, ça donnait une façon de cette violence-là de s'exprimer.
Yeah. Actually, reality television. I work for a television production company, actually, so I'm a big fan of reality TV. And the thing is, actually, the real world is often much more surprising than anything we can invent. In Brazil, in the city of Manaus on the Amazon, they had a crime show, which kind of reports real crime from the streets every week. And they found that every time there was a murder, somehow, as soon as the police arrived, the camera crew arrived at exactly the same time to kind of catch the immediate aftermath.
On parlait de la télé-réalité, moi je trouve ça absolument fascinant, j'aime beaucoup ça. Je travaille pour une compagnie de production télévisée, donc ça m'intéresse beaucoup. Et en fait, je me rends compte que finalement, le monde réel est finalement souvent largement plus surprenant que ce qu'on peut jamais imaginer dans la fiction. Au Brésil, notamment à la ville de Manaus, il y a une émission de télé-réalité qui est relative au crime, où en fait, les gens signalent des crimes. En fait, ils se sont rendus compte que, notamment dans le cas d'un meurtre, les équipes de police arrivaient en même temps quasiment que les équipes que les caméras, donc pour vraiment récupérer les images de ce qui se passe juste après.
Yep. And what they found was happening was the guy who owned the television company, he was a local politician, owned the television company, and he would have people killed so his camera crew could arrive on cue, and he had about maybe 15, 16 people murdered so he could boost his ratings. I mean reality, I mean, that, now that's reality television.
Et qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la personne qui s'occupe donc de la télé, de cette émission, c'est également un politicien local. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il ordonnait des exécutions. Il a fait tuer à peu près 15-16 personnes pour que ces équipes de télé et d'équipes de caméra puissent arriver sur place en même temps et qu'il ait le maximum d'audience. Donc voilà, c'est la vraie télé-réalité.
On on va s'arrêter là pour la conférence. On vous remercie tous d'être venus aussi nombreux pour un samedi matin. Et puis bonne journée.